Apprends comme si tu devais vivre toujours, c'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de Commerce et de Management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler coup de pouce, incitation douce, comment passer de l'intention à l'action. D'ailleurs, c'est même la thèse de son doctorat. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Étienne Bressoux. Salut Étienne.
Bonjour Pierre.
Alors, tu l'as vu Étienne, oui, j'ai regardé, quelle était ta thèse de doctorat?
Je suis admiratif, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent.
Alors en fait, pour tout te dire, j'ai regardé pas mal de trucs, de vidéos qui peuvent exister de ci de là, parce que je voulais un peu quand même préparer. Et notamment, tu as fait une conférence TED dans laquelle alors c'est une phrase, hein, tu le cites en toute simplicité, voilà. Donc voilà, je l'ai retenu. Mais et finalement, c'est ça va être le thème d'aujourd'hui puisqu'on va parler de nudge.
Ouais, ça tombe bien parce que visiblement, ça veut dire que je suis quand même un petit peu tombé dedans quand j'étais petit. Et effectivement, parce que ma thèse remonte à il y a quelques années, effectivement, c'est quelque chose qui ne m'a pas lâché, cette inconsistance que l'être humain peut avoir entre l'intention qu'il a et le comportement qu'il a.
Mais moi, ça me parle en plus. Tu peux pas savoir à quel point ça me parle. Étienne, en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, alors donc je m'appelle Étienne Bressoux et j'aime bien me présenter en disant que j'ai un parcours qui est un peu à l'envers parce que souvent il y a plein de consultants qui en ont marre de l'entreprise, qui arrêtent et qui sont attirés par les sirènes des écoles et de l'université. Moi j'ai fait l'inverse puisque en fait j'ai été à l'université pendant une quinzaine d'années, j'ai fait une thèse, j'ai été maître de conférence, j'ai été enseignant-chercheur, j'ai publié et puis j'ai eu une belle opportunité de rejoindre une entreprise qui s'appelle BVA au département recherche. Ouais, c'est bien.
Alors, attends, juste deux secondes, quand même, ta thèse, tu l'as fait à l'ENS.
Alors, j'ai fait ma thèse, je l'ai fait à Paris 1. Le doctorat, c'est à Paris 1, mais effectivement, j'étais issu de l'école normale supérieure de Cachan. Tout à fait. Enfin, maintenant, Paris-Saclay, pardon.
Ça veut dire quand même un peu un parcours académique d'excellence.
Alors, un bon parcours académique avec une réelle envie, depuis tout petit, d'être enseignant. Alors, ça, c'est quelque chose que je raconte rarement, mais quand j'étais en CM2, je voulais être prof de CM2. Quand j'étais en 6e, je voulais être prof de 6e. Quand j'étais en 5e, je voulais être prof de... T'as compris le principe. Le résultat, c'est que j'ai fini prof de fac, en fait, parce que je me suis arrêté à la fac. Et c'est un vrai bonheur et j'adore ce métier. Je trouve que c'est un métier absolument fabuleux. Moi, transmettre aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, en formation continue, je trouve que c'est absolument absolument passionnant.
Ouais, puis je confirme. Et puis, tu peux avoir un impact direct sur les gens aussi. Tu les transformes quelque part.
Alors, on essaie d'avoir un bon impact direct sur les gens. Ouais. Mais c'est un métier qui est vraiment que j'ai adoré. Si je l'ai quitté pour rejoindre BVA, c'est parce que le projet que me proposait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'adore et j'étais spécialiste et je le suis toujours d'ailleurs des études de marché. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comportement du consommateur et market research, c'est vraiment ce qui m'a guidé. Et donc, quand BVA m'a proposé de les rejoindre dans un département recherche et développement, c'était pour moi l'occasion de passer de la recherche recherche universitaire à la recherche appliquée à l'intérieur de l'entreprise sur des métiers qui me passionnaient. Donc, j'ai quitté l'enseignement non pas parce que j'en avais marre des étudiants et marre de l'éducation nationale, parce que peut-être qu'un jour, j'y retournerai avec un grand plaisir. J'adorais ce métier et je l'adore toujours, mais parce que chez BVA, j'avais un projet qui m'ouvrait les bras, qui était absolument fabuleux et la suite m'a donné raison parce que je me suis bien amusé et je continue à bien m'amuser là-bas.
Il y a eu un choc culturel en passant de l'université à l'entreprise ?
Il y a eu des apprentissages.
C'est joliment dit, ok.
Alors, non, il y a eu un grand... Alors, culturel, oui, quand même. Alors, ça dépend ce qu'on va mettre dans la culture, mais je peux te raconter la chose qui m'a le plus frappé, en fait. C'est toi qui enseignes. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, ça a peut-être évolué depuis, mais il y a une quinzaine d'années, les enseignants faisaient chacun leur cours. Puis, j'ai envie de dire, gardaient jalousement leurs slides pour faire leurs cours. C'était leur
toujours
cours.
Un peu le cas.
Ouais. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivé chez BVA et que j'avais une présentation à faire devant un client et que mon boss m'a filé tous ses slides en me disant « Tiens, prends là-dedans, débrouille-toi et fais », ça m'a fait un choc en fait, parce que j'avais pas l'habitude de cette logique de partage. Et en fait, on était une équipe, on avait besoin de partager la meilleure chose auprès du client. Et donc, l'idée, c'est en fait, ce que tu le fais pour toute l'équipe et pour tout le monde. Ouais. Et effectivement, depuis, je partage allègrement mes slides avec tous mes collègues avec un grand bonheur.
Mais ça veut dire que pendant 5 ans, tu as, j'ai ton profil LinkedIn là sous les yeux. Hein.
Ouais.
5 ans, Innovation and Marketing Science Manager.
Alors. Pendant 5 ans, je suis resté j'étais chez BVA dans le département R&D.
Ouais.
Et c'est là que tout a un peu pris, en fait, puisque avec deux personnes qui s'appellent Eric Singler et Richard Bordenave, avec ces deux personnes-là, on était très intéressés par l'irrationalité des décisions, par le gap entre l'intention et l'action, par le côté customer-centric. Et en fait, on a commencé à se plonger dans des choses qu'on connaissait déjà plus ou moins, hein, Kahneman, et tout ce qui est système 1, système 2, tout ce qui est biais cognitif.
Il va falloir
autre.
Que tu nous expliques ça, parce que
je vais
Daniel
trop vite,
Kahneman, prix Nobel d'économie.
On s'est plongé dans ce qui s'appelle l'économie comportementale. Voilà. En gros, il y a deux courants d'économie. On va dire un courant, je la fais très simple, hein. Il y a un courant classique, et qui est le courant dominant depuis le 18e siècle, hein, qui est en gros de dire, on a des agents économiques rationnels qui maximisent leur utilité sous contrainte budgétaire pour prendre l'ensemble de leurs décisions. Et puis, petit à petit, c'est quand même ce qu'on m'a dit sur les bancs de la fac, hein. Et c'est ce qui m'a inspiré le sujet de ma thèse, hein. et petit à petit, l'économie, mais ça date de 1950. Les économistes ont commencé à se dire, tiens, c'est marrant, il y a des biais par rapport à cette rationalité supposée de nos agents économiques. Et les agents, en fait, peut-être, ils maximisent pas leur utilité sous contrainte budgétaire. Et là, je parle des économistes, hein, parce que les psychologues, par exemple, ça fait assez longtemps qu'ils commençaient à voir tout ça et qu'ils avaient vu ces choses-là. Et du coup, les économistes ont été, ont commencé à introduire de la psychologie à l'intérieur de l'économie et à essayer de comprendre quels étaient les biais qui détournaient un agent homo economicus rationnel de décisions parfaitement rationnelles. Et ça, c'est Kahneman qui a beaucoup été le fer de lance de ça. Alors, ça avait commencé un petit peu avant lui. Mais quand je parle de Daniel Kahneman, effectivement, Daniel Kahneman, pour la petite histoire, c'est un psychologue qui a reçu le prix Nobel d'économie. Donc ça, c'est intéressant. Exactement. Ça veut dire que les économistes ont compris que l'agent homo economicus rationnel n'était peut-être pas si rationnel et qu'on pouvait peut-être l'intégrer.
Alors, c'est quoi ce fameux système 1 de Daniel Kahneman? Système 1 et système 2,
ouais. Le système 1, du coup, c'est le système intuitif. Quand tu traverses la route, tu réfléchis pas aux 20 000 paramètres que tu dois prendre en compte pour traverser la route. En fait, tu traverses la route de manière assez automatique. Potentiellement, il y a un klaxon, tu sursautes et hop, tu vas passer dans une logique où tu vas réfléchir. Et pourquoi j'ai un klaxon? D'abord, tu vas d'abord reculer, en fait, parce que tu vas sentir le danger. Ça, c'est ton système 1. Et puis après, tu vas commencer à réfléchir et à analyser l'ensemble de la situation. Le système 1, c'est tout ce qui est décision automatique, rapide. Le système 2, c'est tout ce qui va être décision posé, réfléchi, et du coup beaucoup plus lent. Je vais te prendre un exemple très simple.
Ouais.
Je connais pas ton niveau de maths, donc je vais prendre le risque. Si je te dis 2 plus 2, Voilà, si je te dis 2 plus 2,
ça va quand même, c'est bon.
Tu me répondras rapidement 4, ton système 1 se met, ton système 1 te suffit. Voilà. Si je te dis 25 fois 37, tu vas y arriver parce que t'es quand même capable de faire 25 fois 37 de tête et puis t'as des petits, mais ça va te prendre un petit peu plus de temps. Tu vas avoir besoin de ton système 2 pour pouvoir aller dans cette logique décisionnelle.
Je comprends. Donc, et à partir de ça, tu te dis donc, il y a des, enfin, on est mécaniquement dans un système 1, enfin,
on est naturellement dans un système 1, et effectivement, de temps en temps, le système 1 va te faire faire des choses très bien, de temps en temps, il va te faire faire des erreurs, et tu ferais mieux de passer en système 2. Et du coup, de temps en temps, on va créer des points d'alerte pour te faire passer en système 2, pour essayer de te faire réfléchir. Mais je vais revenir quand même, parce que moi, je suis en partie économiste, parce que tu l'as souligné, j'étais à Cachan, et à Cachan, il y a de l'économie, mais j'étais aussi gestionnaire, et dans la logique marketing. Et si je te parle de ça, c'est parce que tous ces travaux nous ont intéressés chez BVA au niveau de la R&D dans la manière de les prendre pour pouvoir les intégrer pour mieux comprendre le comportement du consommateur. Voilà. Et d'accord, le marketing avait déjà commencé à intégrer de la psychologie, mais avec les progrès des neurosciences, des sciences cognitives, ce que j'appelle globalement les sciences du comportement de manière large, et j'aime bien le faire de manière large, je pourrais t'expliquer pourquoi, mais ces sciences du comportement devaient nous permettre chez BVA, d'un point de vue R&D, de mieux comprendre le consommateur, et donc du coup de sortir de certains modèles pour finalement tirer un peu des nouvelles ficelles sur ces logiques de comportement du consommateur et mieux aider nos clients à comprendre et à s'orienter et à être plus client-centric. Donc en fait, on a pris cette science qui vient de l'économie, enfin qui vient de la psychologie, qui a été mise en avant par l'économie sur les modèles de processus de décision pour la réintégrer de manière encore plus forte dans des logiques marketing. Je ne sais pas si je suis très clair.
Si, complètement. Ce que j'essaie de voir, c'est dans les décisions. Alors, pour le coup, système 1, c'est quoi la part de rationnel et d'irrationnel?
Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Et t'as peut-être remarqué que je t'ai pas dit que le système 1 était irrationnel et le système 2 rationnel.
Quel raccourci qu'on fait souvent.
Et c'est pour ça que je me permets de faire cette remarque. Et c'est un raccourci qu'on fait souvent. En fait, la rationalité, d'abord, définir ce que c'est que la rationalité. C'est pour ça que j'aime bien passer par l'économie. La rationalité, au sens économique, c'est très clair. C'est maximisation d'utilité sous contrainte budgétaire avec des préférences stables, la transitivité des préférences, une information complète pour pouvoir prendre la décision et la capacité à traiter l'ensemble de cette information. C'est ça, la rationalité, au sens économique du terme. Donc, par défaut, l'irrationalité, c'est quand cette rationalité économique n'opère pas. Et pour moi, et je suis pas le seul, j'ai presque envie de dire de manière provocatrice, ça n'a rien à voir avec le système 1 et le système 2. Parce qu'on peut avoir un système 1 parfaitement rationnel et un système 2. Ouais. On aurait tendance à vouloir dire, le système 1 il est intuitif, etc. Donc il est irrationnel. Non. Tu peux être totalement intuitif et prendre des décisions parfaitement rationnelles. Ne serait-ce que par habitude. Par la manière dont tu fais quand tu traverses la route, c'est plutôt rationnel. A priori, tu t'es pas encore fait écraser par un poids lourd. Donc ton système 1 fonctionne sur un mode de décision rationnel pour t'aider à traverser la route. Par contre, on pourrait dire aussi, du coup, c'est le système 2. Comme on est réfléchi, on est très rationnel. Et là, non plus. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, t'es capable de réfléchir très longtemps avec toutes tes forces pour prendre une décision parfaitement irrationnelle. Et il y en a un qui a montré ça, il y a un auteur qui a montré ça en économie, c'est Schindler, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2000. Ouais. 13, faudrait que tu vérifies, on vérifiera. Mais Schindler a reçu le prix Nobel d'économie, pourquoi? Parce qu'il a expliqué dans un livre comment... Il a expliqué la crise de 2008 dans un livre avant que la crise de 2008 des subprimes n'arrive, en expliquant comment tous les agents financiers actuels étaient en train de prendre, et c'est des gens intelligents et réfléchis, étaient en train de prendre des décisions parfaitement irrationnelles et menaient à une irrationalité des marchés financiers qui, de fait, devaient conduire à une crise. Donc, la compréhension des mécanismes irrationnels des agents économiques a permis à cet auteur-là d'expliquer la crise, d'anticiper la crise. Il l'avait pas daté, mais il a dit que ça arriverait, justement en montrant que même des gens parfaitement réfléchi et qui jouait avec des millions, était capable de prendre des décisions parfaitement irrationnelles. Donc, système 1, intuitif, système 2, réfléchi, les deux peuvent être rationnels et ou irrationnels en fonction du type de décision et du moment.
Ok, Et donc, en gros, vous partez de ce début d'idée, chez BVA, et vous commencez à réfléchir à tout ça.
Exactement. En gros, on se dit, j'étais dans un département R&D pour innover, hein. Et quand tu parlais de choc des cultures, à un moment, il y a aussi cette logique-là. J'ai envie de dire aussi un choc que j'ai eu, c'est que finalement, mon métier d'enseignant-chercheur s'arrêtait là où mon métier d'innovateur et de recherche appliquée donc commençait. Enseignant-chercheur, on réfléchit sur des concepts, on les valide, on les démontre, et puis on écrit quelques lignes de recommandations managériales en disant ce serait bien du coup de faire comme ci, de faire comme ça. Quand on est du côté de l'entreprise, on commence à partir des recommandations managériales, et en fait c'est là qu'arrivent les vrais problèmes, parce que l'économie comportementale nous dit ça serait bien de prendre en compte l'irrationalité des êtres humains. Ok, mais on fait comment? On fait comment dans nos modèles mathématiques? On fait comment dans les décisions qu'on prend? On fait comment pour comprendre mieux le consommateur? Ça veut dire qu'on arrête de mesurer des intentions d'achat et qu'on essaie de mesurer des comportements? Bref, les implications managériales, il y en a plein, et le vrai problème, c'est de les mettre en œuvre. Donc, c'est ça qui a commencé effectivement à nous animer. Et du coup, on a réfléchi à comment on pouvait s'emparer de toute cette science-là pour la mettre au service de nos clients et pour les aider à mieux comprendre leurs consommateurs et donc à mieux les servir.
Alors, quand on parle déjà, est-ce que tu peux, toi, donner une définition du nudge? Parce que moi, je vais le faire, mais ce sera pas aussi bien que si c'est toi qui la donne.
Alors, déjà, pour faire un peu la transition entre tout ce qu'on vient de se raconter et l'économie comportementale et les sciences comportementales, je commencerai par te dire que le nudge est le bras armé des sciences comportementales. En gros, une fois que j'ai compris que mon consommateur était irrationnel, avait des biais dans ses décisions et que je connais très bien tous ces biais-là, ben, je vais pouvoir commencer à agir dessus. Et c'est ça, la logique de nudge. C'est d'agir sur l'environnement. Alors, déjà, je vais le traduire. En français, nudge, et tu l'as dit dans ton introduction, c'est coup de pouce. Voilà. Et c'est un coup de pouce qui va agir en modifiant l'environnement des individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nudge, c'est comment je modifie l'environnement de mon individu pour l'orienter vers une décision, vers un comportement, sans le contraindre, qui soit conforme à ses objectifs. Est-ce que c'est plus clair?
C'est donc.
Est-ce que c'est clair?
Parce que pour qui aurait
déjà.
Ouais, voilà, c'est très clair, mais c'est important. Et puis chaque mot a son poids et son importance dans ce que tu viens de dire.
Oui.
C'est que d'aucuns pourraient se dire. Tiens, on manipule les gens, mais c'est pas du tout ça.
Ben, tu l'as compris dans ma manière de donner la définition, et qui n'est pas que la mienne, hein, qui est celle de Richard Thaler et de Cass Sunstein, qui sont les co-inventeurs du concept de nudge, puisqu'ils ont écrit en 2008 un livre qui s'appelle Nudge et qui emploie pour la première fois ce mot-là pour désigner cette logique de concept. Dans la définition, ils disent bien « je change l'environnement de choix » pour orienter les gens vers un comportement, et c'est là que tu cries à la manipulation potentiellement, sans les contraindre. Donc là, déjà, tout d'un coup, on manipule un peu moins parce qu'on n'est pas en train de contraindre les gens, et pour aider les gens à atteindre leurs propres objectifs. Donc, est-ce que je manipule les gens? Oui, potentiellement, si j'aide un fumeur à arrêter de fumer parce qu'il a envie d'arrêter de fumer, je peux le manipuler pour ça. Est-ce que c'est un problème? Pour moi, non. Le problème, c'est pas le problème de la manipulation. La vraie question, c'est la question de l'éthique. Parce que je peux manipuler des gens en accord avec leurs propres objectifs. Et comme tu le soulignais, pour les aider à passer de l'intention à l'action, hein, j'aime bien aussi définir un nudge comme ça, c'est aider les gens à passer de l'intention à l'action. Parce que si je manipule les gens pour les aider à passer de l'intention...
Si l'intention première n'est pas là...
C'est même pire que ça. Si j'aide les gens à passer de l'intention à l'action, la manipulation... Elle peut être assumée, j'ai envie de dire. On est dans une logique éthique. Je t'aide à atteindre ton propre objectif. Mais si l'intention n'est même pas là, j'ai envie de te dire, comme je le dis parfois à mes clients, que c'est peut-être pas du nudge qu'il faut faire. Il y a peut-être des tas de choses à faire en amont, parce que si les gens n'ont pas du tout l'intention d'aller dans une direction, c'est pas avec un petit changement d'environnement que je vais pouvoir faire basculer un réfractaire vers un comportement qu'il n'a pas envie d'avoir. Et là, il y a d'autres politiques. C'est-à-dire que pour faire changer de comportement les gens, il y a le nudge, l'environnement, et je reviendrai peut-être dessus un peu plus tout à l'heure pourquoi, mais il y a le nudge, et puis il y a des tas de choses. Il y a la loi. Je rends obligatoire la vaccination pour l'ensemble des médecins.
Oui.
Voilà. C'est plus un nudge, mais potentiellement c'est efficace.
On peut être coercitif, oui.
Exactement. Il y a la loi, il y a les taxes, il y a plein de choses qui permettent de changer le comportement. Le nudge, c'est un outil parmi d'autres. Et moi, j'aime bien, effectivement, dire que, pour utiliser le nudge, ça veut dire que quand même, globalement, on a une certaine conviction. Enfin, les gens ont une certaine conviction. Ils ont plutôt envie d'y aller, mais que pour des raisons propre ou liés à leur environnement, bah en fait, ils passent pas à l'acte. Et donc du coup, la question c'est comment je vais pouvoir changer cet environnement pour lever les barrières, et souvent ce sont des petits biais, pour lever les barrières qui sont des biais de décision, et du coup les aider effectivement à passer à l'acte.
Pour que ça résonne chez tout le monde, tu donnes l'histoire des bus scolaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
Alors ça, c'est un cas que j'apprécie particulièrement parce que il est emblématique de plein de choses. La première chose, c'est il y a une loi en France qui oblige les gens qui sont dans un bus, et pas que scolaire, à porter la ceinture de sécurité à partir du moment où le bus ou le car est équipé. On parle de car scolaire d'ailleurs, hein, le bus c'est autre chose. Hein, mais si le car est équipé de ceinture de sécurité, la loi dit « vous devez porter la ceinture de sécurité ». Et il y a une autre loi en France qui oblige les cars qui roulent à avoir des ceintures de sécurité.
D'accord.
Donc à partir de ce moment-là, 100% des enfants qui rentrent dans un car scolaire devraient porter la ceinture de sécurité, puisque c'est la loi, le car a la ceinture, les enfants doivent la porter.
Logique.
Or la réalité, c'est qu'on est bien en dessous de ça, 10% des enfants mettent la ceinture de sécurité à l'intérieur des cars scolaires entre 10 et 19 ans. Avant 10 ans, ils la mettent tous parce qu'il y a un accompagnateur, donc il n'y a pas de sujet.
Okay.
Ils la bouclent tous. À 10 ans, ils sont libres dans le car. C'est pas le rôle du chauffeur. Le chauffeur ne peut pas dire, enfin, il peut le dire, mais c'est compliqué pour lui de le faire parfois. Je ne démarre pas tant que tout le monde n'a pas mis sa ceinture. Vous voyez ce que ça pourrait créer comme crispation dans certains milieux. Il y a des milieux où ça passerait bien, des milieux où ça passerait moins bien. Donc, c'est pas le rôle du chauffeur. Et les enfants sont 10% à mettre la ceinture de sécurité. Pourquoi? Et c'est là qu'on commence à rentrer dans un processus, j'ai envie de dire, de science comportementale. Bah, on va sur le terrain et on essaie de comprendre pourquoi les enfants mettent pas la ceinture. Alors, il y a un truc que tu vas me dire qui est évident, ça fait ringard. Et t'as raison. Les jeunes, entre eux, pour eux, c'est ringard de mettre la ceinture, c'est pas, je suis pas cool si je mets la ceinture, les grands, ils la mettent pas, etc., etc. Et c'est vrai. C'est ce qui s'appelle la norme sociale.
Ouais.
Voilà. Les autres la mettent pas, donc je la mets pas. Et il faut réussir à trouver un point de bascule. Il y a d'autres logiques beaucoup plus fortes, à mon avis, que celle-là. La première, c'est ce qu'on appelle la salience. C'est-à-dire, en gros, la ceinture de sécurité, elle est pas visible. Je sais pas si tu es déjà rentré dans un car, mais la ceinture de sécurité, elle est dans un enrouleur. Donc, elle est enroulée. Il y a une espèce de point d'attache d'un côté. Donc, un, tu la vois pas. Deux, en général, elle est noire sur des sièges bleu marine. Donc, inutile de dire qu'il y a aucun contraste. Et troisièmement, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est ce qui s'appelle le choix par défaut. Le choix par défaut, c'est je m'assieds dans le siège sans rien toucher.
Oui.
Donc, pourquoi je mettrais la ceinture de sécurité? Et donc, tu comprends qu'on a commencé à voir les différents biais qui venaient agir comme des barrières à mettre la ceinture de sécurité. De la norme sociale, de la science, du choix par défaut. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, comment on peut jouer sur ces biais pour que des enfants qui, fondamentalement, si tu leur demandes aux enfants, ils sont pas contre, hein. Est-ce qu'ils savent qu'il faut mettre la ceinture? Oui. Globalement, est-ce qu'ils sont contre? Non, ils sont plutôt prêts. Ils sont dans ce que j'appelle un ventre mou.
Oui.
Voilà. Ils sont pas réfractaires. Il y a des réfractaires, hein. Mais globalement, ils sont pas réfractaires. Et donc, on se dit, comment on peut jouer sur ces biais-là? Alors, la norme sociale, on a trouvé des solutions. Notamment en élisant des capitaines de car qui vont porter le message. Pour les mettre en œuvre, on a besoin de l'éducation nationale. L'éducation nationale ne faisait pas partie de l'équipe avec qui on travaillait. Donc, on n'a pas pu le mettre en place.
D'accord.
Par contre, la science et le choix par défaut, comme on avait Keolis avec nous, bah là, on a pu le mettre en place. Et qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Sur la science, bah, on a mis la ceinture de sécurité dans un fourreau jaune. Voilà. Comme ça, jaune sur bleu marine, ça se voit. Et dans ce que je viens de te dire, on a mis la ceinture de sécurité dans un fourreau jaune. Pourquoi un fourreau? Parce que par défaut, on voulait que la ceinture soit sur le siège. Un peu comme quand tu prends l'avion. La ceinture, elle est sur le siège. Et du coup, le choix par défaut, c'est de toucher la ceinture de sécurité. Que ce soit pour l'enlever, parce que le nudge est sans contrainte, ou que ce soit pour la mettre. Et le pari, c'est que si par défaut je touche la ceinture de sécurité, bah les enfants vont effectivement plus la mettre. Et quand on joue sur cette science et ce choix par défaut, bah on multiplie par 2,4 le port de la ceinture de sécurité à l'intérieur des cars scolaires, c'est-à-dire qu'on passe de 10% à 24%, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, Keolis est en train de généraliser ce dispositif dans l'ensemble de ses cars scolaires.
C'est énorme quand même comme impact.
Bah c'est génial, et c'est là qu'on se dit, bah c'est très pompeux, mais potentiellement, on sauve des vies grâce à ce genre de choses.
Oui,
et moins. C'est quand même super sympa. C'est pour ça que j'adore ce cas-là. Voilà. Alors, on sauve des vies. Oui, potentiellement oui, parce qu'en fait, la ceinture de sécurité dans un car en cas d'accident, elle te permet de pas être éjecté de ta place. Et le fait de pas être éjecté de ta place, bah, ça aide beaucoup à être moins blessé.
Alors, dans un autre exemple, qui, moi, me, alors, un, ça me fait rire et deux, quand je présente les principes, le principe du nudge à mes étudiants, ça leur parle immédiatement. Il y a l'histoire de la mouche à Amsterdam. Oui,
je te voyais venir.
Est-ce que là aussi, tu peux nous raconter l'histoire?
Oui, l'histoire, la mouche à Amsterdam, en gros, c'est simple, hein, c'est quand on va aux toilettes, nous, les hommes, il peut nous arriver de ne pas viser parfaitement bien à l'intérieur de ce qui s'appelle un urinoir. Et donc, en fait, à Amsterdam, ils ont collé une mouche au fond des urinoirs. Pourquoi? Parce que quand, en tant qu'homme, tu vois une mouche dans un urinoir, tu as deux réflexes potentiels, soit tu as envie de t'amuser et tu vises la mouche, soit tu es un grand chasseur et tu as envie de toucher la mouche. Et concrètement, le résultat, c'est quoi? C'est que tu vises la mouche dans tous les cas. Et comme tu vises la mouche, tu vises pas à côté. Et comme tu vises pas à côté, bah potentiellement, tu réduis les dépenses de nettoyage à l'intérieur de l'aéroport. Alors, la légende urbaine, parce que c'est une légende urbaine, même si c'est cité dans les livres, mais il n'y a pas d'article scientifique, je parle à l'enseignant, qui, chercheur que tu es. La légende urbaine dit que ça a permis de réduire de 80% les dépenses de nettoyage à l'aéroport de Schiphol, mais il n'y a pas eu d'expérimentation scientifique de mener sur ça. Maintenant, je crois bien volontiers que ça aide. Et en gros, c'est là que c'est intéressant. Et cet exemple, moi, je l'aime beaucoup pour des tas de raisons. La première raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est qu'en gros, tu vois, si je veux que les gens rendent les toilettes aussi propres que quand ils sont entrés, j'ai deux manières de faire. J'ai l'information et la communication, qui est de mettre ce petit panneau qu'on a tous lu au moins une fois dans notre vie. Merci de rendre les toilettes aussi propres que... Et je dis pas que c'est inutile. C'est pour moi la base. C'est fondamental. Si tu donnes pas l'information aux gens, ils l'ont pas et potentiellement, ils font pas ce qui peut être attendu de toi. Mais le nudge, ça va au-delà de cette logique de communication et la mouche, elle cherche à te faire agir. Elle cherche pas à te convaincre. Et potentiellement, tu peux viser la mouche sans même te rendre compte que du coup, tu vas rendre les toilettes aussi propres qu'eux. C'est-à-dire que, et ça, c'est super important, notamment pour les marketeurs. Parce que souvent, en tant que marketeur, et moi le premier, on a été biberonné à des modèles de persuasion sur lesquels...
Matraquage de messages.
Je développe une attitude grâce à de la persuasion. Cette attitude se transforme en intention et cette intention se transforme en comportement. Et là, la mouche, en fait, elle te fait faire le comportement sans même passer par la case attitude et intention. C'est assez sympa. Donc, je dis pas que parfois attitude, intention, comportement, je dis pas que ça marche jamais. Ça peut marcher. Mais il y a des tas d'autres voies pour arriver au comportement que les voies de la persuasion. Et c'est ça que le nudge, j'aime bien aller explorer. Et je l'ai pas dit, mais sur l'écart scolaire, ça fait des dizaines d'années que l'ANATEP, qui est l'association de transport d'écart scolaire, fait des campagnes de communication pour que les enfants mettent... des dizaines, j'exagère, mais ça fait des années qu'ils font des campagnes pour que les enfants mettent. Et ils nous disent eux-mêmes, efficacité comportementale, zéro. Attitude, oui. Intention, oui. Comportement, rien. Et c'est pour ça qu'ils étaient intéressés pour mener une expérimentation sur le nudge, pour voir si on arrivait à cranter les choses un peu différemment et de manière complémentaire.
Alors, on a vu un exemple très sécurité, un exemple propreté. Est-ce que tu aurais des exemples peut-être, alors plus orientés marketing, comportement d'un consommateur où on aurait influer sur un comportement, et puis peut-être aussi un autre parce que ça se limite pas à ça, mais aussi typiquement sur les salariés d'une entreprise, sur les collaborateurs d'une entreprise.
Alors, tu as raison de le souligner, on a d'abord utilisé le nudge, et on n'est pas les seuls chez BVA, mais tous ceux qui se sont intéressés à ça se sont d'abord intéressés au nudge sur un public externe, les citoyens, les consommateurs, et puis petit à petit, c'est rentré dans l'entreprise. Oui.
Le panneau là qui me flash et qui me dit vous roulez trop vite, c'est du nudge ça?
On peut considérer que c'est du nudge. Pourquoi? Parce que ça change, il te passe la bonne information au bon moment. Et c'est là qu'on voit que la frontière entre la communication et le nudge est parfois assez floue. Mais là, en fait, Ce panneau-là, il cherche à te faire ralentir à un moment précis, à un endroit précis, et il te ramène en science cette logique informationnelle. Ouais. Donc, pour moi, oui, c'est du nudge, d'autant plus que c'est pas coercitif, puisque globalement, même si tu roules à 53 au lieu de rouler à 50,
merci,
tu ne perdras pas de points. Tu te remarqueras que j'ai été soft sur ta conduite. Tu ne perdras aucun point sur ton permis et tu n'auras pas d'amende. Donc, on n'est pas dans le coercitif, on n'est pas en train de changer ton équilibre financier, hein, qui est aussi une logique sur lequel le nudge aime pas donner de l'argent ou en prendre, parce que ça c'est assez rationnel comme comportement, c'est un comportement rationnel économique, donc ce qui peut très bien marcher et qui marche très bien, mais c'est pas les leviers qu'aime activer le nudge. Donc oui, ça en est un. Donc,
excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui, non, je vais, du coup j'y reviens, mais effectivement sur ce que tu me disais, un, du côté du marketing, un exemple que j'aime beaucoup. Tu vois, tiens, j'ai une bouteille d'eau là à côté de moi.
Ouais.
Voilà. Est-ce que tu sais combien de litres d'eau il faut boire par jour?
Ou 1,5.
Ouais, c'est bien, c'est à peu près ça. Maintenant, la question est combien de litres d'eau tu bois par jour?
J'en bois beaucoup. Je dois être quasiment à 2 litres.
Ah bah alors écoute, mince, tu es le contre-exemple parfait, mais je te félicite. Bravo. Souvent les gens savent qu'il faut boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, mais souvent les gens boivent 1 litre grand maximum. C'est en tout cas ce qu'ils te disent. Et ils ont plutôt l'intention de boire les 2 litres pour éviter d'avoir des problèmes de calcul rénaux par exemple, ou d'autres, ouais, ou d'autres logiques. Donc en gros, je suis face à un problème où j'ai un gap entre l'intention et le comportement.
Voilà.
Café Vittel. Vittel a construit un petit, alors je l'ai pas là, mais il a construit un petit bouchon, tu pourras regarder sur internet si tu tapes Vittel Refresh Cap, un petit bouchon avec un minuteur qui fait que quand t'as ta bouteille d'eau à côté de toi, toutes les heures, t'as un petit drapeau qui se lève sur le bouchon. Pof. Et qui, d'accord, te montre que, bah tiens, c'est le moment de boire. Voilà. Et donc là, pour moi, t'as un nudge qui est marketing qui est parfait. Pourquoi? Parce que, alors pourquoi marketing? Parce que c'est un avantage que prend Vittel sur certains concurrents si il généralisait ça, ce qui n'est pas le cas, hein. Il l'a vendu en Angleterre et très peu ailleurs. Mais, d'accord, en gros, la généralisation de ce bouchon, c'est un acte marketing de positionnement et de différenciation de la marque qui apporte un bénéfice à un consommateur et qui va ramener du business à Vittel. Donc, on est plutôt bien dans une logique marketing, tu me l'accordes. Mais en même temps, je suis win-win puisque le bénéfice que j'apporte à mon consommateur est de l'aider à passer de sa logique d'intention qui est « je veux bien effectivement boire » à sa logique d'action. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a un autre que j'aime beaucoup et qui a gagné un prix. Alors, on a monté avec l'Association de l'industrie des marques, qui est basée à Bruxelles et qui représente toutes les marques de grande conso. On a monté ce qu'on a appelé les Nudging for Good Awards. Donc, en gros, comment les marques peuvent aider les consommateurs à avoir des comportements durables. Exactement ce que je viens de t'expliquer avec Vittel. Et il y a un exemple que j'adore qui a été fait et qui, là encore, est dans une logique à la fois market et business, et puis à la fois bonne pour la planète et le consommateur, c'est Rexona qui a développé des déodorants compressés. Je ne sais pas si tu as déjà été acheter des déodorants dans un supermarché, mais si tu es comme un consommateur à peu près logique, quand tu vois un déodorant compressé à côté d'un déodorant normal, le déodorant compressé, il est plus petit que le déodorant normal.
Donc, j'ai l'impression d'en avoir moins.
Tu as complètement l'impression d'en avoir moins. Même si on te dit sur le pack qu'il y en a autant. Ça fait pareil avec le sopalin, hein, quand on dit que il y a 4 rouleaux qui sont équivalents de 6 rouleaux d'anciens sopalins. Tu dis non, c'est pas vrai. Là, j'ai 6, là, j'ai 4. Et t'as tendance à effectivement, d'un point de vue perceptuel, rationnellement, tu devrais croire la marque, parce que si elle te le dit, c'est que c'est vrai. Elle évite de mentir sur ce genre de choses, surtout dans des logiques qui pourraient être perçues en greenwashing. Donc, c'est que c'est vrai. Mais tu la crois potentiellement pas. Et le fait que le déodorant soit plus petit fait que tu as du mal à prendre le déodorant qui est plus grand. Qu'est-ce qu'a fait Rexona? Ils ont créé sur le linéaire dans les supermarchés un petit rehausseur. Et du coup, ils ont mis le déodorant compressé de Rexona. Et il est toujours plus petit, mais en fait, au lieu d'être plus petit en haut, il est plus petit en bas. Et il est sur un rehausseur, mais la hauteur est exactement la même. Et là, d'un point de vue perceptuel, tu n'as plus la perception d'en avoir moins, parce que la hauteur est exactement la même. Donc, on est sur une marque qui essaye de vendre son produit.
Et là, ça a marché.
Et ça a marché, exactement. Alors, on n'a pas, sur ça, j'ai pas la, on a, alors, c'est là que l'enseignant-chercheur qui est en moi, parfois, frémit un peu. J'adorerais avoir une cellule de contrôle. Une cellule de test avec le résultat. La réalité, c'est que je ne l'ai pas et que Rexona, comme eux sont dans le business, ne se sont pas amusés à faire ça. Par contre, ils ont des chiffres de vente qui montrent qu'ils ont réussi à lancer un déodorant compressé, là où c'est un truc qui est quand même super dur. Le sopalin Ezity a fait exactement la même chose et exactement la même logique, et a aussi réussi à pousser les ventes en étant dans des logiques de montrer aux consommateurs le bénéfice et que la réduction n'était pas une réduction. Voilà. Donc, on est pour moi sur des choses qui sont purement marketing, purement business, mais qui d'un autre côté font du bien à la planète, parce que si je m'appelle Rexona et que je fais des déodorants compressés pour réduire les transports de 20%, pour réduire l'usage d'aluminium de 20%, et que personne ne les achète, bah il y a un problème.
Et alors sur les salariés,
ouais. Sur les collaborateurs, il y a plein de domaines. Alors il y a des domaines dans la sécurité, mais je vais pas avoir d'exemple à te partager sur celui-là, donc je vais pas m'apesantir dessus. Mais la sécurité au travail, quand tu travailles dans des usines, comment je fais pour faire en sorte que les gens respectent les gestes sécuritaires, mettent les équipements personnels, coupent les téléphones portables là où il y a des possibilités d'explosion, etc. Ça c'est le premier usage. Mais dans les exemples des choses qu'on a fait et que je trouvais assez intéressant, c'est, il y en a un que j'adore, qui est sur la logique de diversité. On parle beaucoup de diversité, de gender equality, etc. etc. Et on a travaillé avec une grande banque française que je peux nommer, puisqu'on a publié ce cas et que je peux donc le partager, qui s'appelle la BNP. Et la BNP avait un double problème. Le problème de gender equality assez classique, j'ai trop d'hommes dans les salles de marché et pas assez de femmes. Ouais. Et puis, un problème de gender equality renversé, j'ai envie de dire, j'ai trop de femmes aux ressources humaines et pas assez d'hommes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec eux et on a pris en compte l'ensemble de leurs process. Et on a regardé dans leurs process ce qu'on pouvait changer à la marge, où est-ce qu'on pouvait mettre des nudges et comment on pouvait changer ça. Et je vais te donner un exemple de deux, trois choses qu'on a fait et qu'on a mis en œuvre. Premièrement, chez BNP, les ressources humaines, ça s'appelle les HRBP, pour Human Resources Business Partner. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on sait que les hommes sont plus facilement orientés sur des postes de business que les femmes, quand on veut recruter plus d'hommes, il faut mettre en avant la logique business du poste. Donc, au lieu de les appeler des HRBP, on les a appelés des HR Business Partner. On a mis l'emphase sur le nom. On a juste, tu vois, on a même pas vraiment changé le nom. On l'a recustomisé, je vais dire. Ouais, on l'a déployé. Merci beaucoup. Autre chose. On sait que on va être plus facilement en phase avec quelqu'un qui est à peu près comme nous. Et ça, les vendeurs le savent très bien. Si je veux vendre un produit dans un magasin de luxe, j'ai plutôt intérêt à avoir des jeux de vendeurs qui respirent le luxe. Voilà, exactement. Et ben, on a appliqué ça sur les logiques d'annonce. Sur ces logiques d'annonce, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des hommes d'écrire les annonces pour les hommes. Là où avant, comme il y avait majoritairement des femmes au niveau des ressources humaines chez BNP, c'était surtout les femmes qui rédigeaient les annonces. Là, on a demandé à ce que ce soit les hommes qui le fassent. Voilà. Et en faisant des petites choses comme ça, on a réussi à augmenter de plus de 50% la diversité et le recrutement d'hommes par rapport à ce qu'ils avaient. Donc, c'est assez énorme. Hein. Voilà. Juste, tu vois, en changeant, j'aime bien, c'est Richard Thaler dans son discours, parce que je te l'ai pas dit, mais le nudge a été nobelisé via Richard Thaler, parce que Richard Thaler a reçu le prix Nobel d'économie en 2018.
Mais oui, monsieur, c'est quelque chose de sérieux dont on parle là.
Exactement. Et dans son discours, il a dit un truc que j'aime beaucoup. Il a dit, un nudge, c'est quelque chose qui devrait rien changer si on était rationnel et si on était normaux, mais qui en fait change tout parce qu'on est humain. Donc un nudge, c'est une opération que je fais qui n'a aucun impact sur un icône, c'est-à-dire en gros un homo economicus rationnel, mais par contre qui a juste de l'impact sur les êtres humains. Et comme on est plus des êtres humains que des icônes, le nudge fonctionne pas mal. Et tu vois bien que ce que je te raconte, qu'on dise HRBP ou HR Business Partner, si j'étais purement rationnel, ça devrait rien changer. Exactement. Et tu vois qu'en fait, ça change. Et ça change tout. Et tu pourrais reprendre cette logique-là pour tous les exemples de nudge que je viens de te raconter. Le déodorant compressé, il est plus haut, ok, mais enfin, il fait toujours la même taille, hein. Donc ça devrait rien changer. Si, en fait, ça change. Etc., etc.
Et ça nous amène au titre de ton livre qui, moi, m'intéresse particulièrement, qui est Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre. Alors, oui. On a des positions d'enseignement, voire d'éducation, même de nos enfants, puisque on a cette chance, et l'un et l'autre. Comment on fait? Comment on les nudge pour qu'ils apprennent mieux? Parce que j'en peux plus, moi.
Alors, déjà, je vais quand même revenir un tout petit peu, à la jeunesse de ce truc-là.
Ouais.
En gros, j'ai été enseignant pendant un certain nombre d'années, et puis j'ai découvert les sciences comportementales chez BVA, comme tu l'as rappelé tout à l'heure au départ. Et en fait, plus je découvrais les sciences comportementales, et plus je me disais, mais en fait, j'ai tout fou, je pourrais plus jamais enseigner comme j'enseignais avant. Et en fait, c'est en cumulant l'ensemble de ce savoir et ma passion pour ce métier de l'éducation que je me suis dit, bon, bah, je vais en faire un livre, parce que au bout d'un certain moment, en gros, le livre a été très facile à écrire, puisque j'ai cumulé toutes ces expériences sur un certain nombre de temps, et je savais exactement ce que je voulais partager. Donc, comment on fait pour qu'ils apprennent mieux? Parce que c'est ça ta question.
Ouais.
Déjà, la première chose, et tu l'as bien compris, il faut quand même qu'ils aient l'intention.
Ouais.
Voilà.
On peut pas nudger l'intention.
Non. Et l'école est obligatoire. Si tu me parles de tes enfants, hein, plutôt que de tes étudiants, l'école est obligatoire. Donc tu vas pas pouvoir nudger l'intention. Donc en fait, il va y avoir plein de petites logiques que tu vas pouvoir faire à côté. Il y a évidemment. Tout le côté émotionnel que tu vas pouvoir avoir. Mais là, c'est plus l'enseignant qui va pouvoir le donner. En fait, apprendre mieux, ça veut dire plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai du mal à répondre, pardon, à ta question. Parce que ça veut dire inciter les gens à se rendre aux formations, inciter tes étudiants pour qui le cours n'est peut-être pas obligatoire à venir en cours. Ça veut dire, une fois qu'ils sont en cours, bah, faire en sorte qu'ils suivent bien le cours et que on raconte un peu tous ensemble ce qu'on fait. Et puis après, il y a une autre composante qui est l'application et de faire en sorte, qui est peut-être plus pour la formation que pour le scolaire, qui est de faire en sorte que ce que j'ai appris dans une formation, bah, je l'applique quand je retourne au travail. Donc, c'est compliqué de répondre à ta question, mais je vais prendre un exemple tout simple. La première chose qu'il y a à faire, c'est déjà d'avoir des beaux locaux et de les organiser. J'ai été enseignant. J'ai enseigné dans deux endroits radicalement différents, à Paris 8, en Seine-Saint-Denis, à Paris 1, à la Sorbonne. Tu vois, tout de suite, quand je te dis ça, déjà, ton univers mental, je suis sûr que c'est pas le même.
Oui, voilà. Oui, clairement.
À Paris 8, j'ai enseigné les mêmes cours à Paris 8, à Paris 1. À Paris 8, j'ai enseigné un cours pendant des années dans un préfabriqué sur lequel, visiblement, il n'y avait pas de mouches dans les urinoirs d'à côté. Et concrètement, tu n'as pas la même application et le même impact dans le cours que tu peux avoir que quand tu enseignes ce cours-là dans un amphithéâtre à la Sorbonne dans lequel il y a de magnifiques boiseries. Voilà. Donc déjà, le design, si tu veux, enfin, l'environnement physique va pour moi être quelque chose d'assez fondamental. Après, il y a plein de choses que tu peux faire à la maison. Si tu veux que tes enfants lisent, commence par mettre la télécommande de la télé dans une boîte loin et les livres sur le canapé. Plutôt que d'avoir la télécommande sur le canapé face à la télé et les livres dans la chambre plus loin. Parce que le réflexe, c'est j'arrive, je me mets dans le canapé et je prends la télécommande. Alors tes enfants sont peut-être comme les miens, ils regardent plus du tout la télé Ils sont complètement sur YouTube et sur leur téléphone. Mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre une boîte à portable à l'intérieur de la maison dans laquelle les portables seront mis de telle heure à telle heure avec un chargeur et qui fait que, en fait, bah, tes enfants en rentrant de l'école, ils vont déposer le portable, mais il faut que tu le fasses toi aussi parce que l'exemplarité va fonctionner sur ce genre de choses. Donc, il y a plein de petites astuces sur lesquelles tu vas pouvoir jouer pour effectivement voir comment tu peux organiser l'environnement pour que la tentation qui est de regarder des vidéos, qui est etc., soit moins forte quand ils sont en devoir à la maison. Donc tu vois.
C'est-à-dire qu'il y a la voie. Excuse-moi, c'est la voie du moindre effort. Donc il faut que la voie du moindre effort en amène vers le comportement le plus vertueux.
Alors c'est ce qu'un auteur, Sean Acker, appelle la règle des 20 secondes. C'est-à-dire en gros, il faut que tout ce qui t'est et en gros, il faut que tout ce que tu et envie de faire et ce sur quoi tu veux aller soit à moins de 20 secondes de toi. Je sais pas si tu fais de la musique, mais si ton instrument de musique est rangé dans un placard, bah tu en joueras beaucoup moins que s'il trône dans le salon. Voilà.
D'accord.
Parce qu'il est à moins de 20 secondes de toi. C'est absurde, hein. Rationnellement, tu fais de la musique, t'as envie d'en faire, tu peux aller chercher ta guitare qui est à 3 mètres dans un placard. Bah ouais, c'est absurde, mais il n'empêche que si elle est pas à 3 mètres dans un placard, mais à 1 mètre dans le salon, tu vas l'apprendre un peu plus. Donc, tu vas avoir effectivement la possibilité de designer l'environnement physique de tes enfants à la maison pour essayer de cacher certaines choses au bon moment et d'en faire apparaître d'autres à d'autres moments. Mais tu vois que je te parle de la maison, mais il y a aussi l'école dans laquelle on peut jouer. Et là c'est à toi en tant qu'enseignant que je vais pouvoir parler, sur lequel tu vas avoir cette logique d'environnement physique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la manière dont tu vas faire les cours. Voilà. Moi, je suis un grand tenant, et c'est là que j'aime bien parler de sciences comportementales au sens large, parce que ça dépasse le cadre simple du nudge, même si c'est justement inspiré de la manière dont l'être humain fonctionne. Et tu viens de le dire, hein, tout ce qui est, en fait, il faut minimiser les efforts qu'on a à faire. Ouais, on est feignant, hein. Globalement, de base, l'être humain est assez feignant. Voilà. Donc oui, il faut enlever toutes les barrières qu'on va pouvoir faire. Et du coup, quand tu prends ça en compte, dans la logique d'éducation, il y a plein de choses qui dépassent la logique du nudge, mais qui dans les sciences comportementales sont passionnantes. Un exemple, le distributive learning, l'effet d'espacement. En gros, on sait que, et ça c'est grâce aux neurosciences, on sait que il vaut mieux 10 sessions d'une heure que une session de 10 heures.
Voilà. Okay.
Combien d'entreprises font des grandes journées de formation?
Ouais.
Plein. Voilà. Et on sait que, bah, en fait, elles feraient mieux de faire plein de petits morceaux de formation dans l'ensemble de la durée. Voilà une manière dont on va pouvoir commencer à travailler. Ça veut dire quoi pour ton fils? Ça veut dire qu'il est scientifiquement prouvé. Je sais pas quel genre d'élève tu étais quand il fallait que t'apprennes une poésie à l'école. T'as deux types d'élèves, hein. Il y a ceux qui l'apprennent la veille pour le lendemain en se disant, ouh là là, zut, 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 il faut que je l'apprenne. Voilà. Et puis il y a ceux qui se disent bon bah j'ai une semaine, je vais en faire un petit peu chaque jour. C'est ce qu'on a, c'est de l'effet d'espacement, c'est du distributive learning. C'est scientifiquement prouvé que c'est plus efficace. Voilà. Sauf que ça demande de s'organiser un tout petit peu et d'organiser la logique pour faire ça. Donc ces choses-là, tu peux les faire.
Et comment on fait pour pérenniser l'apprentissage? Parce que on l'a tous vécu et il y a tous des trucs qu'on a appris et qu'on a complètement oublié. Alors qu'on y a passé du temps, de l'énergie, on y a grillé quelques neurones. Enfin, tu vois, quand je révise le programme de terminale de mathématiques, je me dis que je suis pas au niveau, par exemple.
Ouais, ça tombe bien, tu dois pas passer le bac cette année.
Non.
tu as complètement raison. Mais en fait, c'est là que il faut vraiment distinguer le système scolaire de la formation professionnelle. Parce que le système scolaire, il va t'amener plein de connaissances. Et il a pour but de te nourrir en connaissance, pour te construire, pour que tu saches tout ce qui existe. Mais le système scolaire, sauf les voies d'apprentissage professionnel, n'est pas fait pour te faire agir. Il est fait pour emmagasiner des connaissances. Mais dans la vie, toi et moi, emmagasiner des connaissances, c'est pas un but en soi.
Non.
Le but que tu as, c'est d'avoir le bon comportement par rapport aux connaissances que tu as et de prendre les bonnes logiques de décision. Donc en fait, malheureusement, la réponse, elle va pas te plaire. Comment faire en sorte pour que les gens continuent et n'oublient pas? Il y a pas 36 solutions. C'est la pratique. Et c'est pour ça que moi, je me bats dans l'univers professionnel. Parce que souvent, on dit, il faut que les salariés fassent telle chose. On va leur faire une formation, comme ça on va leur apprendre et puis après c'est bon. Oui, c'est un bon réflexe de faire une formation, mais après c'est pas bon du tout. La formation n'est que le point de départ. Et donc si je veux par exemple si je fais des formations aux enjeux de sécurité à l'intérieur d'une centrale nucléaire, bah c'est bien parce que ça va donner les bases et la connaissance. Mais ce que je veux, c'est surtout que les gens appliquent les connaissances que j'aurais données. Donc si je fais la formation et qu'après je m'en vais, bah en fait les gens vont peut-être appliquer le premier jour, et puis petit à petit, ça va se déliter. Donc, le seul moyen de conserver la connaissance, c'est de revenir. Et on rentre dans des logiques de coaching, on rentre dans des logiques de follow-up, on rentre dans des logiques de répétition. Donc ça, c'est ce qui va permettre aux gens de bien retenir sur la durée. Après, si je reviens sur l'école, il y a quand même des petites choses qu'on pourrait faire et que tu peux faire en tant qu'enseignant ou pour tes enfants. C'est ce qu'on appelle l'évaluation apprenante. En gros, il est montré en sciences comportementales que tu te remémore mieux les choses, enfin tu te rappelleras mieux des choses à long terme quand tu fais un effort pour te les remémorer plutôt que juste quand tu les écoutes. Je prends exemple, tu as 10 minutes pour apprendre un texte. Tu as intérêt à passer 4 minutes à lire le texte et 6 minutes à essayer de te le remémorer en le regardant, hein. Mais en faisant cet exercice de restitution plutôt que de faire 10 minutes à essayer d'apprendre le texte.
D'accord. Voilà.
Ça, c'est montré que si tu as 10 minutes à passer, tu seras plus efficace dans le premier cas que dans le deuxième. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire en tant qu'enseignant? Qu'est-ce que tous les profs devraient faire? Ils devraient systématiquement faire des quiz ou des évaluations apprenantes. C'est-à-dire, je viens de te faire un cours, et ben à la fin du cours, je te fais un quiz, un QCM, et je te pose plein de questions sur le cours que je viens de faire. Tu sais pas répondre à tout? C'est pas grave. Rien que le fait d'essayer de chercher les bonnes réponses va te faire apprendre, en plus du cours. Donc, plutôt que de faire une heure de cours, je t'invite maintenant, Pierre, à faire 50 minutes de cours et 10 minutes de QCM avec tes étudiants. Et tu sais quoi? Au cours suivant, repose-leur des questions que tu leur as posées il y a un mois ou deux quand vous avez commencé les débuts de session. Parce que du coup, ils devront aller chercher dans leur mémoire et ils vont effectivement aller puiser. Et en fait, en faisant ça, tu vas faire beaucoup mieux travailler la mémoire à long terme. Alors, je dis pas que tes étudiants se souviendront de ce que tu leur auras raconté dans 10 ans. Mais en tout cas, tu vas les aider à passer leur partiel et ça va être une aide grandiose. Et c'est vrai que nous, enseignants, on a tendance à se dire, bah, j'ai une heure, je fais une heure de cours. Et puis, bah, après, les étudiants, ils réviseront et puis c'est à eux de réviser eux-mêmes, etc. Mais les étudiants, ils sont feignants, donc ils le font pas. Donc, si tu veux que ton heure de cours soit rentable, bah, concentre-la en 50 minutes, fais des quiz et passe ton temps à leur faire faire plein de petits quiz parce que ça les obligera à se remémorer et ils apprendront avec ça.
Aujourd'hui, le nudge, on le retrouve principalement où? Alors, parce que là, on a parlé de plein de sujets. C'est quoi les industries ou les problématiques qui accroche le plus à ça?
Alors, d'abord, premièrement, on le retrouve dans les politiques publiques.
Ouais.
C'est le terrain de jeu de prédilection du nudge. C'est par là qu'il est rentré. Et c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser ces techniques-là qui peuvent être qualifiées de manipulatoires, comme tu le rappelais toi-même, dans des enjeux publics, d'un point de vue éthique. Hein, c'est pour le bien de la planète, c'est pour le bien des citoyens, c'est pour le bien collectif, que pour des enjeux privés. Donc, le premier terrain de jeu, ça a été les politiques publiques. Et après, ça s'est évidemment diffusé dans les entreprises. Et dans les entreprises, j'ai envie de te dire que, en fait, il y a plein de secteurs dans lesquels ça se diffuse. Si je devais en choisir, il y en a un qui me paraît fondamental et qui est très intéressant, c'est dans l'industrie pharmaceutique. C'est tout le monde de la santé et tout le monde médical. Oui, parce qu'il y a des réelles problématiques d'observance. Et en fait, le fait que tu ne prennes pas tes médicaments comme ton médecin te l'a dit, ça a un coût énorme. Évidemment, si tu prenais ton médicament comme ton médecin te l'avait dit, c'est aussi bien pour ton laboratoire, pour le laboratoire pharmaceutique qui va bien vendre le médicament. Mais le pire, c'est que potentiellement, en plus en France, tu vas acheter le médicament et tu vas finir par le mettre à la poubelle. Donc, le laboratoire pharmaceutique, il va te le vendre quand même parce que comme il est gratuit via la Sécu, tu l'achètes. Donc, ce qui est d'ailleurs une vraie problématique de nudge, hein. Si on était du point de vue du gouvernement, le tiers payant, c'est d'un point de vue dépenses de santé, c'est une catastrophe puisque en fait tu ne payes rien et ça te semble gratuit. Alors que si tu devais décaisser pour te faire rembourser, ensuite, bah, t'aurais au moins ce qu'on appelle la douleur du paiement et potentiellement tu n'achèterais pas les médicaments que tu ne consommes pas, même s'ils sont gratuits. Après, ça pose d'autres problèmes d'équité parce que
on va peut-être pas aller vers cette réforme.
Non, surtout pas parce que tu vois bien que il y a d'autres enjeux et ce sont des enjeux d'équité. Peut-être que toi et moi, on peut se permettre d'avancer. Peut-être que d'autres gens ne peuvent pas se permettre d'avancer pour leur système de soins. Donc, c'est une bonne chose pour des populations plus pauvres, etc. Donc, je suis pas du tout en train de dire que c'est une catastrophe politique, mais d'un point de vue de dépenses de santé, c'est juste catastrophique. Et donc, l'industrie pharmaceutique, elle a plein de choses à aller jouer là-dedans, notamment aussi avec, on le voit avec le vaccin, avec des médecins qui sont potentiellement irrationnels aussi dans leur choix. Dès lors que tu as un peu d'innovation dans les thérapies, c'est compliqué. Moi, j'ai mes habitudes de prescription. Alors, est-ce que je vais vers l'innovation thérapeutique? C'est plein de questions. Mais enfin, si à un moment, la Haute Autorité de Santé explique que tel médicament, pour tel cas, est plus fiable, plus toléré, plus efficace, ça vaut peut-être le coup de faire le switch de médicament au niveau d'un médecin. Alors oui, c'est bon pour le labo, mais c'est aussi bon pour le patient in fine. Je suis pas en train de dire que il faut filer n'importe quel médicament à n'importe qui. Hein. On parle bien de thérapie ciblée à certains moments, sur certains patients, etc. Mais même dans ces cadres-là, on peut avoir des choix qui peuvent être faits de manière rationnelle. Donc, je mettrais l'industrie pharma. Le deuxième que je mettrais, c'est la grande conso. La grande conso, ils sont très, très forts en marketing.
Bah oui.
Ils sont très, très bons en comportement du consommateur et en psychologie du consommateur. Donc, le nudge, ils en font sans le savoir depuis depuis très longtemps sur tout un tas de sujets en rayon, en retail. Le retail hein, est un retail grande conso et même retail magasin, grande surface, enfin comment dire, les Fnac, les Darty, les magasins de luxe, etc. Ikea, il y a plein de choses qui sont faites. Ils en font déjà sans savoir que ça s'appelle Nudge, et tant mieux pour eux. Eux, ils gagneraient à systématiser un petit peu plus les connaissances, c'est-à-dire qu'en gros, ils font déjà des tas de choses extra, et quand nous, on travaille avec eux parfois sur des logiques Nudge, on s'aperçoit qu'ils savent, allez, je dis 60% de ce qu'il faut savoir, mais il y a 40%, et ils se débrouillent très bien avec ces 60%, mais il y a 40% qu'ils connaissent pas et qui potentiellement pourraient changer un petit peu la donne à droite à gauche. Donc, on va pouvoir les aiguiller, les aider sur ces sujets-là. Après, on travaille pas mal avec le transport aussi, avec les logiques de transport, donc que ce soit sur des logiques sécuritaires ou des logiques d'abonnement. Et puis voilà pour les principaux.
Et donc, toujours chez BVA.
En gros, chez BVA, on travaille.
Parce que là, on répond juste à la première question, c'est est-ce que tu veux bien te présenter?
Je t'avais dit que j'étais bavard. Je t'ai pas menti. comment dire? Chez BVA, on travaille pour les politiques publiques.
D'accord.
Et effectivement, on travaille pour des entreprises privées. Donc là, je te dis les secteurs vers lesquels nous, on sent du potentiel et on a des clients qui ont une réelle appétence pour mieux faire ce qu'ils font déjà plutôt pas mal grâce à des logiques d'optimisation qui se font sur les sciences comportementales et le nudge.
Alors, pour tous ceux qui seraient en position de décision et de s'intéresser à ces problématiques, comment toi tu les passes au tamis, c'est-à-dire que tu as un potentiel, un prospect qui t'appelle et qui dit oh là là, je vous ai entendu dans la call, c'était fabuleux, merci beaucoup, voilà, on était 12 millions à écouter, j'aimerais faire ça. C'est quoi toi tes questions de qualification, parce que tu l'as dit, derrière il y a des questions d'éthique, mais plutôt du marketing pur et dur avec de la com et on va faire du couponing, etc. ou est-ce qu'on est dans des vraies logiques de réflexion nudge?
Il y a deux étapes par rapport à ce que tu dis. Il y a le sujet sur lequel je vais et la manière dont je le traite, parce que quand tu parles de manipulation et d'éthique, on est sur le sujet vers lequel je vais, et quand on est sur les logiques de couponing ou autre, on est la manière dans laquelle je le traite. Donc je vais les prendre dans l'ordre si tu veux bien. La première, c'est la logique d'éthique. Effectivement, c'est quelque chose sur... Alors déjà, le premier point, c'est j'adore quand un prospect m'appelle. Souvent, il faut que j'aille les chercher. Hein. Oui, c'est vrai qu'on fait pas mal de buzz et la call va très très certainement aider de manière très très forte à ce que mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de sciences comportementales et nudge qui nous donnent effectivement une certaine notoriété et certains clients viennent vers nous. D'autres, je vais les chercher en leur disant, dis donc, là, vous avez peut-être un sujet qui pourrait être super intéressant et sur lequel on pourrait travailler ensemble. Donc, quand j'en arrive là avec un client, il y a effectivement la logique de sélection des sujets. Et la logique de sélection des sujets, alors déjà, on a des clients, souvent, ils viennent avec un objectif. Voilà. Et là, il faut ramener cette logique-là sur des logiques comportementales. Je te donne un exemple, hein, je veux maigrir, c'est un objectif. Pour maigrir, je peux faire du sport, je peux manger moins, j'ai plusieurs comportements que je vais pouvoir adopter. Donc nous, on va aider les clients à bien sélectionner des logiques comportementales parce que les objectifs, ils ont déjà des grandes stratégies sur lesquelles ils vont pouvoir travailler. Nous, on va venir en complément de ces stratégies-là sur des logiques comportementales. Alors, deux exemples. Un, sur lequel on a dit non à un client parce que ça nous arrive. On a un acteur des finances, on va dire ça comme ça, qui est venu nous voir pour nous expliquer que il avait envie de pousser un certain type de produit plutôt risqué à des gens qui étaient, il l'a pas dit comme ça évidemment, mais en gros à des fonctionnaires, donc à des gens qui ont plutôt un profil assez averse au risque. Donc là, nous, on y voit un vrai problème qui est que, je vois un double problème. Le premier, c'est que je sais pas si je sais faire avec le nudge. Ouais. Ça, c'est un problème de prod. Et puis le deuxième, j'y vois un problème éthique. C'est si les gens veulent pas de produits risqués, j'ai pas envie de leur pousser un produit risqué. Je veux bien pousser un produit risqué sur des profils qui sont effectivement appétants au risque. Et là, j'ai potentiellement des choses à faire. Mais sur un profil avers ce risque, je vais avoir un problème. Quand une marque de soda vient nous expliquer qu'il veut faire switcher des buveurs d'eau vers du soda, bah, et potentiellement des enfants, j'ai un problème.
Ça s'appelle l'effet Ronaldo, ça.
C'est le genre de choses sur lesquelles, effectivement, bah, on réoriente, tu vois. Peut-être qu'on pourrait... Tes buveurs là, peut-être qu'on pourrait prendre plutôt des gens qui ont plutôt l'habitude de boire des sodas très sucrés pour essayer de les faire switcher vers du light. Et là, effectivement, je peux y aller et je peux partir avec eux sur ces logiques-là. Donc, tu vois qu'il y a déjà quand même une logique un petit peu de sélection. Et dans notre process, à un moment, on a un atelier de créativité où on réfléchit pas mal avec la marque, etc., etc. Et on aime bien dans cet atelier de créativité mettre des clients parce que ça, c'est un gage d'éthique. Ouais. Je te prends un exemple. Je suis laboratoire pharmaceutique. Je veux que les médecins prescrivent la bonne molécule au bon patient. Si je suis capable d'inviter un médecin référent, donc quelqu'un qui a une grande voix parmi l'ensemble des médecins, à l'intérieur d'un atelier de créativité pour travailler sur cet objectif-là, c'est qu'il y a zéro problème d'éthique. Parce que si j'en avais, j'inviterais pas mon client. Une marque de soda qui veut faire passer des enfants qui boivent de l'eau à du sucre, je pense pas qu'ils accepteraient qu'on invite les parents de ces enfants-là à participer à un workshop de co-création.
Ça va créer un peu de tension.
Et donc en fait, ça c'est aussi un garde-fou, tu vois, dans la méthodologie dans laquelle on travaille. Et puis après, si je prends ta deuxième question, qui est-ce que c'est faire du couponing, etc. C'est justement tout sauf ça. C'est-à-dire que nous, on essaie de travailler sur des leviers qui sont nouveaux. Et pour ça, en fait, on a un acronyme qui s'appelle les facteurs de changement. Chaque lettre, c'est un des biais que la psychologie nous enseigne sur l'être humain. Le F, c'est la facilité. Le A, c'est l'ancrage. Le C, c'est le cadrage. Le D, c'est le défaut, etc., etc. Donc, j'ai facteurs de changement comme ça. Et en fait, nous, on prend ces facteurs de changement. Un, comme je te l'ai expliqué dans l'exemple avec Keolis et la Fondation Maïf pour l'écart scolaire, où on essaie de voir quels sont les biais qui sont en jeu et de voir comment on peut les contrer. Ou au contraire, on va essayer de prendre des biais qu'il n'y a pas, mais on se dit, tiens, si celui-là, je l'activais, potentiellement, je pourrais faire switcher les gens du bon côté de la logique comportementale et celle que je souhaite. Et en fait, du coup, on trouve des idées qui sont tout sauf des logiques de couponing. Et par ailleurs, on essaye d'éviter de faire en sorte que nos clients, qui en plus parfois sont des marketeurs, donc qui ont des habitudes, et donc qui disent « Ah ben, on va faire une bonne campagne de com. Ah, on va prendre un influenceur. Ah, ça, c'est des ficelles, ils n'ont pas besoin de nous pour aller les chercher. » Donc, on leur dit « C'est bien, vous avez raison, faites-le. » Mais on va peut-être essayer de trouver d'autres choses et on les aiguille avec ces facteurs de changement pour essayer de trouver des logiques différentes.
On l'a dit, c'est toujours bien quand un prospect t'appelle. Et donc, si on veut te contacter, c'est quoi le bon média ? LinkedIn,
c'est LinkedIn ou mon email, parce que je pense que si tu tapes Étienne Bressou BVA Nudge Unit ou contact BVA Nudge Unit, en gros, si tu veux vraiment me trouver, tu me trouveras très facilement.
Ok.
La preuve, on se connaissait pas avant.
Exactement.
Et t'as réussi à me contacter.
Exactement, très facilement, très facilement en plus. Voilà, donc je vous le recommande. Bon, Étienne, on a fait un bon tour, alors un peu en surface, je te l'accorde, mais j'espère que ça aura justement là aussi provoqué certains effets de levier dans le et de réflexion chez nos auditeurs, parce que voilà, on a des moyens à notre disposition. Tu l'as dit, les sciences comportementales aujourd'hui nous permettent de mieux comprendre, de mieux agir, d'être plus pertinent dans les actions, d'avoir des leviers plus efficaces. Donc voilà, je trouve ça juste hyper intéressant. Et puis c'est une discipline dans laquelle on raconte plein d'histoires et moi j'adore qu'on me raconte des histoires.
Je confirme. On s'amuse bien.
Nous voilà à la fin de cet épisode, et donc tu ne vas pas y couper, aux 7 dernières questions désormais rituelles de la colle. Alors, Étienne, dis-nous, quel est ton mot préféré ?
Eh ben écoute, je vais te répondre bonheur.
D'accord. OK.
Tu veux peut-être que j'explique un petit peu.
Tu peux élaborer un peu.
Parce qu'en fait, ça paraît simple, mais c'est pas si facile à atteindre. Et on a souvent tendance à penser que la réussite fait le bonheur, alors que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le bonheur qui va faire la réussite. Soyez heureux et globalement, toutes les portes vont s'ouvrir. Donc, on va dire bonheur.
C'est une très belle philosophie. J'adore. Étienne, quel mot détestes-tu ?
Plus compliqué, ça. Ben, on va dire que je déteste hypocrisie. Pas tant pour le mot en tant que tel, qui peut être assez joli, mais pour tout ce qu'il représente et pour ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, je préfère avoir des dialogues francs et directs avec un ensemble de personnes plutôt que d'avoir des méandres d'hypocrisie qui viennent de compliquer la vie.
Restons simples. Le son, le bruit que tu aimes.
Le bruit de la mer.
Ouais, ça fait partie des grands classiques.
Ouais, le grand classique, bon.
Le son ou le bruit que tu détestes.
Écoute, le bruit d'un bar-restaurant et d'un DJ dans un bar-restaurant qui vient couvrir le bruit de la mer sur la plage.
Joli. Quel est ton juron, gros mot ou blasphème favori?
Je blasphème pas beaucoup.
Bah bon Dieu, quand même un peu.
Mais non. Un favori, tu veux? Tu veux pas un juron, un blasphème favori.
On peut faire dans le classique aussi.
Je sais pas si c'est un juron, un blasphème, mais c'est une réplique de film qui est un petit peu dans ce genre-là quand même. Mm-hmm. Quand la personne était énervée, c'est 20 sur 20 et vive la France.
Ok, c'est improbable.
Là, ça t'étonne, hein. C'est ah bah tiens. J'avais fait dans le classique. Voilà, quand quelque chose m'énerve, c'est quand mes enfants font une bêtise, c'est ça que je leur dis.
Et ça vient d'où?
Et ça vient de Amélie Poulain.
Ah, ok.
Par Isabelle Nanty. Et je trouve ça magnifique.
Ok, ça marche. Étienne, la citation que tu aurais aimé avoir prononcée.
Si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.
Et...
J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle reflète ce que je n'aime pas trop dans la logique d'éducation et qu'on voit souvent. En gros, on a tous des intelligences très différentes. On peut être un génie des maths et nul en français ou un génie du français et nul en maths. Et malheureusement, parfois, on vous force à être un génie dans tout. En tout cas, on essaye de vous forcer à faire de tout. Et il y a des choses qui sont juste pas faites pour vous et qui potentiellement, et c'est ça qui m'embête le plus, peuvent dégrader votre estime de vous. Parce que si on me force à faire des maths alors que je suis nul en maths, petit à petit, je vais croire que je suis idiot. Alors qu'en fait, je suis pas idiot. J'ai juste des tas d'autres intelligences, peut-être créatives, peut-être musicales, peut-être linguistiques.
Détruire ça, hein. Ça peut détruire.
Et c'est ça qui m'embête.
Ok, c'est très très joli. Je connaissais cette citation. C'est Einstein, hein, c'est ça.
C'est Albert Einstein, exactement.
Attention, dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire?
J'aimerais bien qu'il me dise, c'était une bonne blague, tu peux y retourner.
Ah, tu remets le couvert comme ça tout de suite.
Ah ouais, la vie est belle, non?
Oui. Je sais pas pourquoi je m'en étonne, mais ouais, t'as raison. On peut repartir pour un tour.
C'est sympa.
Ça fera plaisir.
Bien.
Étienne, il me reste encore à te remercier de ton temps, d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. Je mettrai le lien vers ton bouquin dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas. Il y a plein de choses à y découvrir, encore plein d'exemples, plein d'histoires, et voilà, c'est juste passionnant à lire.
Eh ben merci beaucoup. Moi j'étais ravi de passer ce moment avec toi et bravo pour la qualité de l'animation, c'était très sympathique.
Ah, c'est gentil. Merci beaucoup Étienne. Allez, bye bye.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
Bravo, vous avez tenu jusque là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.